On continue notre série de l'Évangile de Jean. On est rendu au chapitre 6. Ce matin, on a un gros texte, mais c'est un texte de leçon. Comme si Dieu voulait... Dieu veut toujours nous apprendre des choses. Mais ce matin, particulièrement, il y a quelque chose de spécial que Dieu veut nous montrer. Et on passe à une leçon de vie pratique dans Jean chapitre 6. Je vais vous lire le verset 1. Donc, après cela, le « cela », c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et on peut le voir sur Internet. Jésus s'en allait de l'autre côté de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et là, on arrive à un point du ministère de Jésus où Jésus est devenu une espèce de rock star de la Galilée, on va dire. Là, il y a un nombre de followers assez impressionnant. On dit quelque chose comme 5000 hommes. On compte pas les femmes et les enfants. Certains disent entre 8 et 10 000 personnes qui sont là, ça fait beaucoup de likes. Il y a de quoi vraiment dire, wow, OK, Jésus, on sent que là, il y a quelque chose qui se passe. Hein, c'est rendu un influenceur. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, c'est le verset 5, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Ah, il disait ça pour l'éprouver. Car il savait très bien ce qu'il allait faire. Et ça, c'est Jésus. Jésus savait ce qui était pour se passer. Il connaissait déjà la journée du lendemain. Il n'y avait pas de secret pour lui. Et là, il veut utiliser les événements qui vont arriver pour donner une bonne leçon. Une bonne leçon à la foule, mais aussi une bonne leçon à ses disciples. On connaît l'histoire. Jésus nourrit ses 5000 hommes ou 10 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est un miracle. Je vous dis, faites ça à la maison, là, prenez une coupe de pita puis des poissons, mettons des croquettes, puis essayez de nourrir toute la famille avec ça, vous allez voir, surtout si vous avez des ados. C'est un miracle! C'est un vrai miracle! On arrive au verset 14, ces gens qui le suivaient, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, ben là, celui-là, c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Imagine, là, quand on est rendu au summum là, de sa célébrité, on s'en vient pour l'enlever pour le faire roi, se retirer de nouveau sur la montagne. C'est l'apogée. On est rendu, enfin, on va pouvoir enfin conquérir le monde avec Jésus. Mais la leçon se poursuit. Les disciples traversent le lac. Et là, Jésus probablement leur a demandé de traverser. Verset 17, étant monté dans une barque, il traverse la mer pour se rendre à Capharnaüm. C'est au bord d'un gros lac quand même. Il faisait déjà nuit. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Verset 18, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. 30 stades, j'ai regardé combien que ça faisait. C'est 5 kilomètres minimum. Je ne sais pas, les gars, j'ai pris une bonne marche, là, c'était 7 kilomètres. 5 kilomètres à marcher sur l'eau. Jésus va les rejoindre en marchant. Sur l'eau. Quelle leçon il essaie de leur dire? Il essaie de leur dire que je viens vraiment du ciel. Il aurait pu voler en passant, hein? Donc je dis ça juste de même, là. C'est pas parce qu'il était limité d'une certaine façon. La physique n'avait pas de pouvoir sur lui, là. Les lois de la physique, on oublie ça dans ce moment-là. Jésus prend la décision de faire 5 kilomètres, une bonne petite marche de santé de nuit sur l'eau, va rejoindre ses disciples. Et là, le lendemain, la foule réussit à le retrouver et lui demande comment il est venu là. Jésus leur répond du tac au tac, puis là on voit ça au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Il y avait deux leçons là. Deux leçons qui sont à travers, le cœur même, le verset principal qui est le verset 51 où Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Pour la foule, il veut leur donner une leçon. Il dit, contentez-vous pas seulement du pain qui peut satisfaire le corps, mais cherchez le pain qui peut vous donner la vie éternelle. Et pour ses disciples qui sont déjà des adorateurs, il leur dit, écoutez, je vais vous montrer que vous pouvez être encore plus adorateurs. Je suis le pain qui vient du ciel. Je vous partage les pains, je vous fais apparaître des pains, et non seulement ça, mais en plus, je suis capable de marcher sur l'eau pour vous montrer, il n'y a rien qui est à mon épreuve. Je suis Dieu, je suis Jésus. Jésus s'y prend toujours de cette façon-là. Il te prend là où est-ce que tu es ce matin, là. Il va te prendre là où tu es. Et il veut t'amener vers lui, vers une adoration toujours plus profonde, toujours plus intime avec lui. Fait que ce matin, il y a quelque chose pour toi. C'est sûr, c'est certain. La preuve, c'est que tu es là et que tu écoutes. Le Seigneur veut te parler un matin. Il veut t'amener vers lui. Il veut faire de toi un plus grand adorateur. Et c'est pour ça que ce matin, à travers ce passage-là, à travers le chapitre 6, on va voir comment on peut passer de spectateur ou de follower, mais on va dire spectateur. Comment passer de spectateur à adorateur? Et pour y arriver, dans le texte que Julie va nous lire, on va voir quatre questions, quatre développements, quatre interrogations qu'on peut se poser pour voir un peu notre niveau d'adorateur qu'on a. Mais on va prier, puis Julie va nous lire le cœur même du passage de ce matin. Prions. Jésus, on veut te dire à quel point on t'aime. On est à l'écoute ce matin. Parle, tes serviteurs, écoute. On veut que tu parles à notre cœur, bouleverse nos habitudes, change notre façon de voir ta personne. Le Dieu qui marche sur l'eau, le Dieu qui fait des miracles incroyables, des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Ce matin, on te prie de nous rapprocher de toi. On te prie, Seigneur, que ta parole transperce notre âme et nous amène à une relation encore plus intime avec toi. Oh oui, Jésus, c'est ce qu'on te demande en ton nom. Amen.
Le passage de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 6, les versets 44 à 58 dans la nouvelle édition de Genève. Donc Jean, chapitre 6, versets 44 à 58. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ma chair. Ma chair est vraiment ma nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
Vous savez, un petit peu plus tard, quand ils vont entendre ça, les followers, vont dire « Wow, 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 ça c'est vraiment tough, là. Manger ton corps, boire ton sang. » Et le verset 66 dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Ils ont décidé de ne plus être son ami. Ils se sont retirés de la liste d'amis de Jésus. C'était trop dur pour eux autres. Fait que c'est vraiment à propos, parce qu'avec le temps de la pandémie qu'on vit, c'est tellement un moment bouleversant. Je lisais dans le Christianity Today, c'est très sérieux, on fait un sondage aux États-Unis, et presque 30% des chrétiens sont pas vraiment certains de revenir à l'Église quand la pandémie va être terminée. C'est le tiers. Ça fait beaucoup de followers, ça. C'était des spectateurs et nous, on a besoin de savoir, Seigneur, de quel côté je me tiens. Est-ce que je suis un spectateur ou vraiment un adorateur? Fait qu'on va y aller par grosse bouchée avec notre texte. C'est un long texte, c'est très nutritif et on arrive à la foule qui revient, qui finalement retrouve Jésus au bord du lac, lui demande, bon, comment t'es arrivé ici? Et là, on a vu, Jésus leur répond, Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Fait que la première question que tu dois te poser pour savoir de quel côté tu te situes, es-tu un spectateur ou un adorateur, c'est pourquoi suis-tu Jésus? Et ça se passe entre les versets 26 et 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ça fait peut-être une vingtaine d'années que je suis dans le ministère et j'ai vu pas mal de monde quitter la foi. C'est toujours une grande tristesse, mais dans chacun de ces cas-là, ce que je vois, c'est que c'est une question d'attente. Les attentes n'étaient pas comblées ou les attentes étaient placées à la mauvaise place. Des attentes. Il y a un chant que j'aime beaucoup de Dan Lutten qui dit « Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. » Puis nos attentes, souvent, quand on rencontre Jésus, c'est on a l'impression que là, on ne manquera jamais de rien, puis des pains et des poissons, on va en avoir à tous les jours, que le bonheur va être plus facile, que ça va être gratuit, que cette relation-là avec Dieu, étant donné que Christ vient faire sa maison en nous, maintenant, on va avoir une expérience de Jésus incroyable à tous les jours et à tous les moments, que l'Église qui est là pour s'aimer les uns les autres, va combler tous les vides que j'ai dans le cœur, que l'Église va être là pour me chouchouter, me dorloter. Puis la vie continue, la vie suit son cours, puis on arrive tranquillement devant des déceptions, devant des attentes qui sont pas rencontrées, devant des épreuves qui nous engourdissent, puis qui finissent lentement à nous faire croire que même Dieu est indifférent à ce qu'on est, quand c'est totalement faux. Et là, on tombe, il peut arriver qu'on tombe dans cette catégorie dont Jésus parle dans Luc, chapitre 8, verset 14, « Ceux qui sont tombés parmi les épines, ceux ayant entendu la parole, qui s'en vont, il la laisse étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits, ils viennent à maturité. » Il y en a d'autres qui deviennent littéralement des zombies spirituels. C'est-à-dire qu'on prend leur pouls, c'est pas clair, c'est pas si évident que ça. Ils ont été blessés au combat, déçus, et lentement, ils finissent par perdre confiance. Ils donnent des signes de vie, mais le taux de confiance a baissé, que ce soit au niveau du leadership, de l'Église, de... Ce que j'entends souvent, c'est que j'ai tellement donné, on m'a déçu, il n'y a pas d'amour ici. C'est des choses que j'ai entendues souvent. Et Jésus peut répondre quelque chose du genre, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour vienne à vous à l'improviste. » Parce que c'est quelque chose qui nous appartient. On doit prendre garde à nous-mêmes. On doit prendre garde à nous-mêmes. Ça peut arriver à n'importe qui de glisser lentement d'un adorateur à un spectateur et de s'asseoir et de dire, là, je vais juste participer, c'est-à-dire regarder le spectacle. On peut rester assis religieusement puis quand même être mort intérieurement durant très longtemps. Un spectateur va suivre Jésus comme ces gens-là pour ce que Jésus peut lui apporter. Sécurité, expérience, le feel good, excusez mon français. Je me sens bien, il faut que je me sente tout le temps bien. La palette est vraiment aussi grande qu'il y a d'attente. Et on est dans une drôle de période. On est dans une société qui met beaucoup d'emphase sur le développement personnel. Et je me choisis. Hein, je me choisis. Ce qui est important, c'est comment je me sens, que j'ai constamment un bonheur à 10. Puis qu'il n'y a jamais de désagrément dans ma vie. C'est un peu le mot d'ordre. Mais pourtant, c'est pas vrai. C'est pas ça, la vie. On peut arriver même à un moment donné à chanter des chants, lever nos mains et faire un peu comme ce que Jésus reprochait à son peuple, qui disait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est quotidien. La question « Pourquoi je suis Jésus? » Pourquoi suis-je Jésus? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? » se pose pas juste au moment où tu rencontres Jésus. Elle se pose à chaque jour, à chaque matin. Aujourd'hui, Seigneur, je veux pas te suivre uniquement pour ce que tu me donnes. Je veux te suivre, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je le suis? Ça demande de l'honnêteté personnelle, ça demande de l'humilité, parce que chacun peut glisser d'un bord ou de l'autre à tout moment. On doit veiller sur nous-mêmes, les amis. Ah oui! Un adorateur va suivre Jésus pour ce qu'il est. Rien de plus et rien de moins. Il n'y a pas d'attente. Comme ce que Jésus dit au verset 27, Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué d'un sceau. Jésus n'a jamais promis qu'il nous éviterait les épreuves. Jamais. Mais ce qu'il a promis, c'est qu'il serait avec nous à travers ces épreuves-là. À chaque jour, il est avec nous jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité. Quelque part, d'avoir cette espèce d'attitude-là, comme Pierre dit à ses amis dans sa lettre, au verset 4, verset 12, il dit « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. » Le plus beau témoignage qu'on peut avoir vraiment pour Dieu, c'est notre attitude joyeuse justement à travers les moments plus difficiles. Comment je me comporte quand ça va mal, c'est ce qui peut vraiment glorifier Dieu. Et c'est peut-être même probablement une raison principale que les épreuves ne sont pas enlevées quand on devient chrétien, parce que c'est à travers ces épreuves-là qu'on peut vraiment, vraiment exposer comment Dieu est merveilleux puis comment Dieu est avec nous. Le spectateur, lui, va chercher ce que ça va lui donner de suivre Jésus. L'adorateur, lui, va simplement chercher Jésus, ni plus, ni moins. Fait que tu te poses la question, pourquoi suis-tu Jésus un matin? On arrive au verset 28, puis la deuxième question. Travailler pour la nourriture. Comment il dit ça? Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Verset 27. Et là, on est dans la synagogue en passant. Et les Juifs demandent à Jésus, OK, verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Tu nous dis travailler pour la nourriture qui périt pas. Tu sais, ben, regardez, qu'est-ce qu'on doit faire? La question, elle semble légitime. Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Les Juifs lui répondent, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Qu'est-ce que tu fais? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Il y a un petit côté bizarre, là, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de whack, là, tu sais, parce que là, Jésus vient d'en nourrir au moins 5 000 à 10 000. D'une façon totalement miraculeuse. Ils sont probablement pas au courant qu'il a traversé le lac à pied en plus. T'sais. Et là, il dit, ben, OK, quel miracle tu nous montres pour nous dire qu'il faut qu'on te fasse confiance. C'est vraiment surréaliste. La deuxième question, c'est, est-ce que tu négocies avec Dieu? Est-ce que tu négocies avec Dieu? Quand même. Souvent, on cherche à apporter un petit peu de nous-mêmes au ciel en pensant que le ciel va s'enrichir avec un petit peu de nos efforts. Hein? Comme cette image-là que Yannick avait prêchée l'année passée dans Galates, je pense, où il disait, t'sais, bon, ça, c'est le cadenas pour débarrer le ciel, le code, c'est Jésus. Puis là, toi, tu arrives, tu dis, ben, il me semble que je rajouterais un M, t'sais, pour le personnaliser, t'sais, il faut quand même, c'est moi, là, c'est mon salut, fait que j'y rajouterais, ben, c'est parce qu'un code, là, tu sais, le code du Wi-Fi, quelqu'un tantôt me demandait le code du Wi-Fi, ben, même si tu rajoutes ton nom au début, ça ne marchera pas. Là, t'sais. C'est juste comme ça. Le code est clair. Pour la vie éternelle, c'est Jésus. Puis là, on passe Jésus au test des ben, OK, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Puis même de la théologie, on dit, bon, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. C'est quand même fort. Un spectateur. Un spectateur va suivre Jésus en pensant, il y a comme une illusion. Puis encore plus aujourd'hui, en cette époque où les médias sont omniprésents, tu as l'impression que ta seule présence va mousser ses codes d'écoute. Ben ouais, c'est sûr, plus on est, plus il est important, plus il devient famous. On se le dit pas comme ça, mais tu sais, on a l'impression qu'il faut qu'on paye notre billet. Puis plus on paye cher notre billet, plus on a des privilèges. C'est-à-dire que, tu sais, je vais passer des blancs au bleu, au rouge, ou non, je vais être sur le parterre, puis même je vais avoir des billets VIP, parce qu'après le show, on va pouvoir aller serrer la main de Jésus. Ça va être vraiment cool, prendre un petit selfie avec. T'sais, non, mais on a des fois comme cette impression-là qu'il faut que je fasse un petit quelque chose en plus parce que ça va me donner des privilèges de plus. Moi, j'ai entendu souvent des gens dire, après tout ce que j'ai fait dans l'Église, ou cet autre grand succès, après tout ce que j'ai donné, il y a une question qui est sous-jacente à ça, qui dit, jusqu'où tu crois que tes œuvres ou même ta théologie peuvent être agréables à Dieu? Franchement, penses-tu vraiment que Dieu bave et attend après tes œuvres et ta théologie? Un adorateur va suivre Jésus parce qu'il est conscient de sa pauvreté et de sa nudité. Il est conscient de sa pauvreté spirituelle parce qu'il sait qu'en dehors de Jésus, il n'y a aucun salut qui est possible. Il est conscient de sa pauvreté intellectuelle parce qu'on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Ça, c'est déjà le début de la sagesse. Il est conscient de sa pauvreté physique parce que sans lui, on ne peut absolument rien faire. Tu ne peux pas respirer sans Dieu. Il est conscient de sa pauvreté, même théologique. Parce que ce qu'on connaît de Dieu, c'est juste parce que le Saint-Esprit nous l'a dévoilé. On est pauvre, pauvre, pauvre. Et là, l'adorateur accepte d'être dernier comme premier. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'être avec Jésus. C'est tout ce qui compte. Le reste n'a pas d'importance. On est nu et découvert devant lui. Hébreu 10, ça, Hébreu 4, 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. La différence, c'est la crainte de Dieu. Ces gens-là dans la synagogue ont été très arrogants envers Jésus. « Ouais, prouve-nous! » Puis en plus, après un méga miracle comme ce qui s'est produit la veille, il demande encore des preuves. La crainte de Dieu, ou c'était mieux la confiance, une confiance profonde en lui qui font que tu t'abandonnes sans espérer recevoir, en sachant que les mains sont vides, mais ils sont devant lui. Parce que ce qui est important, c'est d'être seulement avec lui. Est-ce que tu négocies avec Dieu? Est-ce que tu es ce genre de personne-là qui négocie avec Dieu? La troisième question, c'est, réponds-tu à sa voix? Est-ce que tu réponds à sa voix? C'est les versets 37 à 47. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est le verset 37. Et au verset 44, Jean Ranchéreau, c'est Jésus qui parle, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque entend le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Est-ce que tu réponds à sa voix? Il y a une progression là ici. Là, parce que, bon, Dieu parle constamment. Dieu parle constamment de plusieurs couleurs différentes. Moi, je vais souvent dans le bois, j'aime être en contact avec la nature. Ça reflète, ça expose la gloire de Dieu. Dieu peut parler à travers ça. C'est pas une voix audible, mais elle est perceptible. Dieu parle à travers sa parole. C'est pas audible, mais c'est perceptible. Dieu parle par son esprit. C'est pas audible, mais c'est perceptible. Jean 12, 32, Jésus dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a une progression. Dieu attire l'humanité à lui. Mais ces brebis entendent sa voix. Je les connais et elles me suivent. Certains entendent. Dieu attire tous les hommes. Certains entendent sa voix. Et je peux dire quelque chose un matin. S'il y a quelque chose qui te dérange, c'est bon signe. C'est parce que tu entends sa voix. Ça faut juste être attiré. Le fait que tu sois là, c'est que tu es attiré. Le fait que ça te dérange, c'est que tu entends. Là, ça commence à être intéressant. Tu sais, c'est bon signe. De ceux qui entendent sa voix, il y en a qui vont l'écouter. Mais bon, on est attiré, on entend, on écoute. Pilate, Jésus est devant Pilate. Il dit, t'es donc au roi. Il dit, oui, je suis roi. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. On monte le niveau, là. On monte le niveau. Dieu attire, il y en a qui entendent, il y en a qui écoutent, mais il y en a qui répondent. Un spectateur entend la voix de Dieu, puis il retourne chez eux. Un peu comme ce que Jacques dit, Jacques 1:23, il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et un adorateur, lui, est attiré par Dieu, entend sa voix, vient à Jésus, lui fait confiance et obéit. Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un adorateur entend la voix et répond. Répond par la confiance. Un peu comme ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il l'entend, il la reçoit avec joie, lui fait confiance. Comment on répond à la voix de Jésus? Tous ceux que le Père me donne, Jean 6:37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Comment tu réponds à sa voix? Quel genre d'auditeur que tu es? Est-ce que tu t'écoutes, puis après, oups, bon, c'était bon. Une anecdote, je me souviens. J'avais prêché quelque chose à Laval à l'époque, puis quelqu'un est arrivé en retard. Ça a donné comme ça, je ne me souviens pas pourquoi. Puis dans le stationnement, la personne en retard demande à quelqu'un qui vient de sortir, il dit, de quoi il parlait aujourd'hui? Tu sais, genre les yeux du chevreuil devant le spot, là. Il se rappelait plus. Bon. Puis là, on arrive entre les versets 48 et 58. Je suis le pain de vie. C'est là qu'on est. Verset 51 dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là, il y a beaucoup plus que la manne ici, là. On est à des années-lumière. Tout pointe vers Jésus, puis on le voit encore ici. Cette manne-là, c'était un genre de pain sucré là, qui descendait du ciel, était là pour nourrir le peuple de Dieu à chaque jour. C'était parfait pour garder la vie physique. Mais Jésus nous dit ici que il y a plus que la manne. Il y a lui qui est le pain qui donne la vie éternelle. Encore une fois, le volet spirituel est invisible. Mais c'est Jésus qui vivifie, on va le voir plus tard. C'est son esprit qui donne la vie à ces paroles-là. Et Jésus provoque, là. Il y a une provocation qui se passe. Il faut dire qu'ils ont été arrogants là, en demandant des miracles, puis « prouve-nous qui que t'es ». Mais « je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Bon, déjà, c'est... C'est pas pire, mais il va encore une coche plus loin. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est provocateur et même aujourd'hui encore, c'est très provocateur. Mais Jésus sait où il va et nous, on sait où ça va. Ça nous conduit droit sur la croix. C'est la croix qui nous amène là. Jésus veut nous amener vers cette conscience de relation où on se pose la question, qu'est-ce qui te rassasie? Qu'est-ce qui te rassasie? Manger sa chair, boire son sang, c'est une communion vraiment serrée. Vous avez déjà entendu parler des couples fusionnels? Tu sais, ils sont fusionnels, ces deux-là. Là, tu sais, ils s'aiment intensément, ils sont passionnels. Jésus veut nous emmener dans ce niveau-là, le niveau spirituel, le niveau éternel, le niveau vraiment où comme lui est passionnel. La manne, les pains et les poissons, tout ça sert à garder notre corps en santé, mais Jésus veut nous emmener à l'étape qui est l'étape spirituelle, l'étape qui est éternelle. La seule nourriture spirituelle qui peut donner la vie éternelle, c'est Jésus. C'est tout. Et à chaque fois qu'on partage le pain et la coupe, quand on se remémore ce que Christ a fait à la croix, on est en train de partager quelque part une passion qu'on a pour lui. On est en train de dire qu'on est affamé de lui. On est affamé de lui. Avoir cette conscience de ma carence spirituelle, laisser mon appétit prendre le dessus. Croire en Jésus, c'est pas juste lui faire confiance comme on fait confiance à un politicien, là. Croire, c'est connaître. Comme Jésus le dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot connaître, là, est vraiment important. C'est une référence directe avec Adam, connu Ève. C'est pas un terme sexuel, c'est un terme d'intimité. Les deux font une seule chair. Les deux sont tellement fusionnels que cet amour-là qui les lie est indescriptible parce que Dieu est amour. C'est Jésus qui dit au chapitre 17, verset 21 de l'Évangile de Jean, « Que tous soient un, et c'est la prière de Jésus, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et il renchérit encore et dit, « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, afin que le monde voit. » Écoute, c'est l'évangélisation 101, là. C'est là que ça se passe, dans cette relation-là que tu as avec Jésus. Qu'est-ce qui te rassasie? C'est l'abandon, le don de soi pour Jésus, m'identifier à lui jusqu'à quand je prends ce pain et cette coupe-là, je veux me reconnaître dans ses souffrances, je veux décider de crucifier ma vie pour que lui puisse vivre sa vie à travers moi. Wow! Paul disait dans Galates, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ben là, les spectateurs, là, ils sont scandalisés. Les fils se touchent, ça ne marche plus. Non, 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 non et non. Non, non. C'est là qu'il quitte. Parce que le spectateur, lui, il veut quelque chose de sucré. Il ne veut pas quelque chose de salé. Il veut être diverti. Faites-nous des bonnes chansons, puis il faut que ça swing. Ils veulent quelque chose d'agréable qui va dire, « Michel, tu es un champion de Dieu. Tu es vraiment le King Dieu, un plan juste pour toi. Les autres, c'est pas grave, c'est juste pour toi. C'est ta croissance à toi qui est au centre du plan de Dieu. » On veut avoir des sentiments agréables, on veut avoir un « feel good ». Moi, quand je viens à l'église, là, je veux me sentir bien, je veux que ça « feel » comme faux, tu sais. Un adorateur, lui, a faim de Jésus. La manne, là, ça ne le rassasie pas. C'est les paroles de Jésus qui satisfont son appétit. Il va se joindre à une église, pas pour le sucré de la manne ou la gratuité des pains, pas pour un sentiment agréable, parce qu'il entend sa voix et il veut être avec ceux qui sont comme lui. Le spectateur, quand on s'approche de la croix, fuit. Trop de souffrance. Trop dur. L'adorateur lui dit, « Oui, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. » J'invite les musiciens. Spectateur ou adorateur? Tu sais, c'est un défi aujourd'hui, là. Avec cette pandémie-là, puis qu'on est en confinement, on est déconnecté quand même, là, puis c'est, on voit qu'on peut glisser, parce qu'on devient un peu des spectateurs devant la télé. Puis là, ben, quand le discours est un peu trop souffrant, on zappe, on s'en va dans une autre chaîne, un autre canal, comme si c'était des postes de TV, puis on n'écoute pas la voix de Dieu pour nous. Peut-être qu'il y en a plein qui ont quitté présentement. Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu suis Jésus? Pour ce que Jésus t'apporte ou simplement pour ce qu'il est? Pourquoi tu négocies avec lui? Est-ce que tu négocies avec lui? Tu sais, est-ce que tu penses que tu peux en amener assez pour lui que tu vas pouvoir gagner pratiquement ton ciel ou sa faveur, ou tu es juste conscient que tu as les mains vides devant lui? Pourquoi? Comment tu réponds à sa voix? Avec obéissance ou... Qu'est-ce qu'il disait déjà le grand matin? Qu'est-ce qui te ressaisit? Qu'est-ce qui te ressaisit? Est-ce que c'est Jésus, même si des fois ça fait mal? Ou c'est chercher des choses sucrées qui vont satisfaire ton cœur pécheur? Une bonne réflexion ce matin, ça vaut la peine de prendre le temps de faire le point avec Jésus, de se demander, bon, est-ce que je suis un spectateur ou un adorateur? Et nous, on est là pour toi. Si tu as des questions, si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'encouragement, laisse-nous un message. On va t'appeler. On est là pour t'accompagner dans ton cheminement avec Jésus. Dans les salles, présentement, il y a des pasteurs qui sont là. On va prier avec toi parce qu'on veut vraiment que l'Église de l'Espoir, ce soit une Église d'adorateurs, pas une Église de spectateurs. Prions. Jésus, ce matin, on ne veut pas s'illusionner. On sait que notre cœur est souvent tortueux et notre cœur est souvent champion pour se dissimuler sous le tapis les choses qui pourraient nous cacher notre propre conscience. On te prie ce matin de nous éclairer, nous montrer, nous éclairer, ouvrir les yeux de notre cœur pour que toi, Jésus, tu parles à notre cœur. Que ces questions-là qu'on se pose et qu'on va se poser cette semaine puissent nous révéler le chemin vers toi pour être des adorateurs en esprit et en vérité, des adorateurs authentiques de ta personne, des passionnés de toi, des amoureux de toi, des gens qui ont seulement qu'un but, glorifier ton nom. Fais de nous, Seigneur, ces adorateurs-là, que, Seigneur, on ne glisse pas vers le spectateur, Seigneur Jésus. Merci, merci de nous éclairer. Merci, Seigneur, ce matin, de parler à notre cœur. Merci d'être dans notre vie. Et c'est dans ton beau nom, Jésus, que nous te prions. Amen.